Bonjour, ça fait plaisir de vous voir ce matin là comme ça, c'est magnifique, j'espère que vous allez bien, vous avez quand même le droit de dire un petit oui, c'est vrai, c'est juste, bravo. On a décidé de dire que, de manière assez claire, que la vie continue, et puis on va un peu essayer de voir dans quel domaine ça continue, dans quel domaine ça change, dans quel domaine on doit s'adapter. Mais le mot d'ordre, c'est que vraiment la vie continue. Puis je crois qu'on a une conviction profonde au conseil de pouvoir se dire la vie continue et on va tout faire pour qu'elle continue le mieux possible avec notre Père qui nous accompagne. La vie continue, on l'a vu avec les dessins de Marilyn, là, avec la rentrée. On se demande un peu comment on va faire, on va jongler. À titre personnel, je me rends compte qu'on est en train de vivre une étape en famille puisque notre dernier fils, Corentin, va commencer l'école. Ça fait partie de ces étapes un peu dans la vie. Nous, on ne sait pas trop comment les interpréter, mais toujours est-il que, clac, il y a un changement. Et puis, on se rend compte que là, qu'on le veuille ou non, la vie continue. Ça continue d'avancer, donc ça ne sert à rien de résister. On se dit plutôt accompagner ce mouvement. Et dans nos églises aussi, la vie continue et résolument, on s'est dit qu'on est accompagné ce mouvement indépendamment de la situation sanitaire, ou plutôt avec la situation sanitaire. J'ai lu un article qu'on devait être prêt à apprendre à danser avec ce virus. Et je trouve que c'est une très belle image et puis c'est celle qu'on a envie de suivre. On va apprendre à danser. Parce que ce n'est pas une pandémie qui va changer notre mission. Notre mission reste la même et aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est cette transmission de la foi de génération en génération dont il est question. C'est ce cœur que nous avons, tout ce que nous avons reçu des plus anciens parmi nous, que l'on transmet à la plus jeune génération. Et je crois que c'est une mission, une responsabilité qui a du sens. Tu l'as très bien dit, Anne-Sophie, ça m'a touché ce que tu as dit. Et puis de se dire qu'on est tous là, ensemble, pour vivre cette mission qui ne change pas. Et là, je crois qu'on a pu poser un beau jalon avec l'organisation des Kids Games. Je ne sais pas, plusieurs d'entre vous ont été concernés de près ou de loin, soit vos enfants y étaient, soit vous avez été bénévoles. Et je crois qu'on a vraiment pu passer une semaine assez forte. Parce que moi qui ai pu avoir la chance de présider ce comité d'organisation cette année, je vous dis que ce n'était pas une organisation de tout repos. Entre le mois de juin et le mois de juillet, entre le mois de janvier et le mois de juillet, des changements ont été conséquents, des changements ont été nombreux, et je ne vous parle pas de toutes les tensions, qu'est-ce qu'on devrait faire, où, quoi, comment, dans quelles circonstances, et il a fallu essayer de maintenir tout cela ensemble pour vivre cette semaine avec plus de 200 enfants. Et ce qu'on a vécu, c'était vraiment très fort. Et je crois que c'était un symbole fort et réel de se dire que la vie continue. On aurait eu 1000 raisons d'arrêter. Il y a même à un moment donné, beaucoup de régions qui se sont dit, cette année, on ne se lance pas, c'est trop compliqué. Puis nous, on s'est dit, bon voilà, on essaye de continuer. Je crois que ce qu'on a pu vivre, malgré le fait, je pense que vous l'avez appris, qu'il y a eu un cas positif qui était dans sur le site de Rôle, les relations avec le médecin cantonal se sont bien déroulées. On a pu, même là aussi, continuer malgré le fait que la situation sanitaire à un moment donné s'est tendue. Et je vois vraiment la grâce de Dieu de se dire on a toujours cette mission qui continue, toujours cette mission qui reste là pour nous et à vivre. Et je donne deux exemples de ce qui s'est passé. Il y en avait notamment une course agile. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la course agile, mais il s'agit de faire un petit parcours avec différents obstacles le plus rapidement possible. Et une des courses agiles, il y avait une corde entre un grand de l'équipe et un petit de l'équipe. Et j'ai regardé une partie de l'après-midi les courses agiles des différentes équipes. Alors je vous disais, c'était assez rigolo à observer. Entre les grands qui accompagnaient tranquillement le petit pour le plus vite possible faire le parcours, et puis certaines fois où le petit avait l'épaule là, et puis le reste du bras 4 mètres plus loin, parce qu'il essayait de tenir la corde et de tirer le maximum, le plus de force qu'il avait, mais il n'en avait pas assez pour être assez fort par rapport aux grands. Et tous ces encouragements entre grands et petits. Et puis je crois que là, même pour les Kids Games, on a un aperçu de cette solidarité entre générations, de ces relations qui peuvent nous faire grandir entre générations. Et un autre exemple qui m'a dit que la vie continue, c'était de voir, et le matin et l'après-midi, finalement la passion qui animait ces enfants pour faire le mieux possible ce qui leur était proposé. Il n'y avait pas de mollesse, il n'y avait pas de résistance, il y avait une envie d'aller de l'avant. Et cette vie, parce que de voir là plus de 100 enfants qui sont animés de cette même vie, je vous garantis que ça donne un sacré coup de boost. Puis je crois que tous les bénévoles qui étaient là, qui ont pu entourer et aimer ces enfants, ils ont senti ce coup de boost, puis se dire « Allez, on y va ». Puis Regula, elle a pu nous entraîner, par exemple, dans la danse, avec différentes chorégraphies aussi, avec différents enfants. Ben là, il y avait aussi de la vie, il y avait aussi de la joie. Et je trouvais que c'était bien que je puisse vous le partager, car oui, la vie continue et notre ministère de transmission de la foi a pu continuer pendant cette semaine. Et je nous en suis tous reconnaissants et j'en suis reconnaissant à Dieu. La vie qui continue, ça signifie donc qu'on n'est pas attentiste, on n'est pas en train de subir cette situation puis se dire, oh bon, on attend que ça passe, on fait le rondeau un petit peu, mais de manière plus déterminée, on se dit, non, c'est comme ça et on apprend plutôt à danser avec ce virus. Ça signifie aussi qu'on accepte les adaptations. Là, on est répartis de manière échelonnée dans la salle. On doit mettre un masque pour chanter, c'est quand même pas super évident. On doit trouver aussi des adaptations par rapport au ministère enfance. On se voit moins, on se rend compte qu'au niveau des équipes de bénévoles, ça s'étire un peu. C'est pas forcément évident à vivre, mais on essaie de s'adapter au mieux. On essaye de se dire, on continue d'aller de l'avant. Et on essaye aussi, mais ça c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, il y a 14 000 idées à la seconde qui sortent, de discerner ce qui change et ce qui ne change pas. Et ça, c'est compliqué, plus délicat à faire. Vous voulez croire que j'ai une corona, mais j'ai la gorge sèche. S'il y a quelqu'un qui peut m'apporter un verre d'eau, c'est volontiers. Donc finalement, de dire la vie continue, c'est pas si naïf que ça. C'est pas si naïf de dire que oui, on peut y arriver. La vie qui continue, ça signifie également que un des éléments fondamentaux de notre foi, c'est-à-dire la parole et ce qu'elle a à nous dire, ça reste un élément qui ne change pas et un élément sur lequel on peut se raccrocher. Je crois que si Dieu a décidé de nous parler par une parole qui a tenu le coup pendant plus de 2000 ans, ce n'est pas une pandémie actuelle qui va nous dire que tout à coup elle aurait pris une ride ou qu'elle serait plus valable. Et un des éléments importants de notre vie communautaire, un des éléments importants de ce qui fait qu'on se rassemble, c'est qu'on peut se rassembler collectivement autour de la parole. Voilà, et là qu'on a une équipe pastorale qui fonctionne super bien. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. Et je crois que c'est un de nos défis à l'heure actuelle, et puis c'est aussi un des défis que j'ai en tant que pasteur, c'est avec les liens qui se sont distendus, de se dire, mais quel est pour chacune, chacun, et quel est pour nous en tant que communauté, ce lien avec le Père ? Quel est ce lien avec le Père ? Est-ce qu'il reste ? Est-ce qu'il s'évanouit un peu ? Est-ce qu'il devient plus difficile ? Est-ce qu'il devient plus intense, moins intense ? Est-ce qu'il devient plus échelonné ? C'est toutes des questions qui me turlupinent un peu, parce qu'on se voit moins, on peut moins échanger autour de cette relation qui nous unit à Dieu. Et je crois pourtant qu'elle reste fondamentale. Je crois pourtant qu'elle reste une boussole. Et c'est pour ça que ce matin, je nous invite à partager cette parole, en pensant que cette parole, c'est vraiment un élément de notre relation au Père. Et rien d'autre, rien de plus. Avant d'apprendre quelque chose, c'est un élément de notre relation au Père. C'est ce qui fait qu'on est l'un avec l'autre, avec le Père. Alors je vous invite vraiment à méditer ce psaume, c'est le psaume 89. Si vous voulez fermer les yeux pour l'écouter, je vais vous le lire. Si vous voulez suivre sur vos téléphones, n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez, mais pensez-le vraiment comme une relation au Père. Qui nous dit « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. » Oui, je le dis, la bonté est édifiée pour toujours. Tu fondes ta fidélité dans le ciel. Et tu nous dis, j'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi. J'ai fait ce serment à mon serviteur David. J'affirmerai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône pour l'éternité. Le ciel célèbre tes merveilles, ô Dieu. Et ta fidélité est présente dans l'assemblée des saints. En effet, qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel ? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ? Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. Il est terrible pour ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu de l'univers, qui est donc puissant comme toi ? Éternel, ta fidélité t'environne. C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ses vagues se soulèvent, c'est toi aussi qui les calme. Tu as écrasé l'Égypte, tu l'as transpercée. Tu as dispersé tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartient le ciel, à toi aussi appartient la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il contient. Tu as créé le nord et le sud, le Tabor et l'Hermon acclament ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. Heureux le peuple qui s'est acclamé. Heureux le peuple qui s'est acclamé. Ils marchent à ta lumière éternelle. Ils se réjouissent sans cesse à cause de ton nom et tirent gloire de ta justice. Car c'est toi qui fais sa beauté et sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Amen. Ça fait du bien, non? D'entendre des paroles comme cela. Des paroles qui nous invitent à la prière, des paroles qui nous invitent à l'acclamation, des paroles qui nous invitent à la relation avec ce Dieu qui est à l'origine de tout. Car il y a des éléments qui ressortent, et je vais juste en prendre quelques-uns comme ça, pour les souligner. Je suis sûr que vous avez déjà été touchés en écoutant ce texte par différents éléments. Et moi, j'ai aussi été touché par différents éléments que je vous partage maintenant. Ce qui m'impressionne dans ce texte, c'est la bonté et la fidélité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est scandé à différents moments. Dieu est bon et Dieu est fidèle. La vie continue, oui, mais on doit bien avouer qu'il y a une bonne dose d'incertitude et de stress avec cette vie qui continue. On se dit toujours qu'il faut savoir prendre la vie au jour le jour, mais on a énormément de peine à prendre la vie au jour le jour. Carpe diem, c'est très populaire, mais en fait, on est mieux quand c'est planifié à long terme et puis qu'on sait où on va. Prendre la vie au jour le jour, c'est aussi apprendre, et puis moi, je pense qu'on doit la réapprendre, à compter sur la bonté et la fidélité de Dieu qui se renouvelle chaque matin. Il ne se renouvelle pas pour les 6 prochains mois, puis c'est bon. On n'a pas un tableau Excel pour dire clac, 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 c'est bon. Dieu nous la donne à chaque reprise et je crois qu'on a besoin de l'expérimenter à chaque reprise dans cette relation qui nous unit à lui. Ce n'est pas donné une fois pour toutes avec un tableau Excel. Il y a besoin de ressentir cette bonté, cette fidélité chaque matin. Bonté et fidélité qui est manifestée par une alliance. Et ça, c'est le socle sur lequel on peut s'appuyer. C'est que Dieu décide lui-même de fonder sa fidélité dans le ciel et il la manifeste avec nous à travers une alliance. Ici, si c'est lui qui le décide. Ça, c'est l'élément sûr sur lequel on peut s'appuyer. C'est l'élément sûr dans la foi où on se dit, là, ça ne va pas changer. Les incertitudes, elles ne vont pas commencer à grappiller la fidélité de Dieu. Elle va rester unique et complète pour nous. Elle se manifeste par une alliance. Elle se manifeste par la création. Et le fait de prendre peut-être du temps pour admirer cette création nous parle de la bonté et de la fidélité de Dieu à notre égard. Et finalement, elle se manifeste par des actes que Dieu a posés à travers l'histoire de son peuple Israël. Il n'est pas resté inactif, il a posé des actes assez clairs de sa présence, de son action dans la vie du peuple d'Israël. Et s'il l'a fait pour son peuple, il va le faire pour son Église, il va le faire pour chacune et chacun d'entre nous. Je disais que c'était un peu stressant la vie, et puis il y a même ce personnage qu'on connaît vraiment très bien maintenant. Je pense que tout le monde connaît son nom, même les plus jeunes d'entre nous, n'est-ce pas? Monsieur Alain Berset, qu'est-ce qu'il nous a dit dernièrement? Il nous a dit qu'il sentait que l'état d'esprit des Suisses avait changé. Pendant les mois de mars et avril, il sentait beaucoup de solidarité, beaucoup de confiance aussi dans l'action gouvernementale, comme une forme de mobilisation collective extrêmement forte. Puis là, son interview, je crois que ça date du 10 août, il dit « L'état d'esprit a changé, on sent beaucoup plus de stress, d'anxiété et un tout petit rien pourrait faire beaucoup de dégâts et faire un peu décoller, dans le mauvais sens du terme, les choses. » On sent aujourd'hui, la phrase exacte, c'est que les nerfs sont à vif, il faudrait peu de choses pour que les gens s'énervent. On se rend compte, hein? La vie continue, on doit s'adapter à cette nouvelle donne et notamment une des caractéristiques, c'est qu'il y a plus de stress. Alors, quelle est la différence croyante? Est-ce que nous sommes, nous, des ajouteurs de stress ou est-ce que, parce que nous avons cette relation au Père, on peut être des calmeurs de situation? Alors, j'ai trouvé ça, de la famille de David Fogel, une pilule anti-stress comme ça que vous pouvez aller acheter à la pharmacie ou à la droguerie du coin. C'est une manière d'avoir des possibilités de faire baisser son stress. Je ne suis pas sûr que ça fasse une vraie différence croyante, même je suis sûr que c'est 100% naturel, c'est presque même bio, donc je suis sûr que ça doit quand même faire du bien. Ce n'est pas ça le truc, mais quelle est notre différence croyance? Et je crois que mieux que le docteur Fogel, ce psaume nous donne trois éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Et ces trois éléments, on les trouve dans les versets 2 et 3 de ce psaume. Je vous les relis. Le psalmiste parle de Dieu à ce moment-là, mais il s'inclut dans sa manière de parler de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il parle tout en je. Et ça, c'est notre réponse active. Les croyants n'est pas là simplement à la merci de Dieu qui nous dirigerait comme ça. Dieu, il affirme des choses, il nous révèle qui il est, et le croyant a cette grâce de pouvoir mettre ses propres mots, ses propres émotions sur ce qu'il comprend de Dieu. Et c'est exactement ce que fait Ethan, celui qui a écrit ce psaume, à travers ces quelques versets. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il prend la décision de quoi ? De chanter toujours les bontés de l'Éternel. Il ne reste pas à se dire « je sais que l'Éternel est bon » et puis que c'est une connaissance un peu théorique et puis générale. Non, il prend la décision d'intégrer cette réalité par un acte, un geste qui l'engage. Parce que oui, chanter, ça engage. On doit faire marcher ses faux cordes vocales, on essaye d'être plus ou moins juste au niveau de ce qu'on chante, on essaye de se lancer, et puis de se lancer, si vous devez chanter en public, ce n'est pas forcément super évident. Ça demande un engagement. Chanter les bontés de l'Éternel. C'est pour ça qu'on le fait, on se demande pourquoi on chante le dimanche matin, parce qu'on se dit, ouais, ben c'est cool, il y a de la bonne musique. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est de se dire, on intègre, et c'est une manière que Dieu nous a donné, d'intégrer sa réalité dans nos vies et de pouvoir l'expérimenter. Et c'est pour ça qu'on tient à ces moments de louange. Ce n'est pas parce que c'est cool, c'est d'abord parce qu'on peut intégrer et donner, nous, notre part active, expérimenter quelque chose de ce que Dieu met dans nos vies, dans nos cœurs. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Et puis ça, si on se dit qu'on le fait chaque matin, vous ne pensez pas que ça change un tout petit peu le regard sur la journée ? Je commence par chanter les bontés de l'Éternel, et sa fidélité. Ce n'est pas RTS Info avec le nombre de cas de coronavirus, bientôt il y aura les licenciements, il y aura plein de mauvaises nouvelles qui vont arriver ces prochaines semaines, ces prochains mois. Ça, je ne suis pas prophète, mais je peux vous garantir que ça va arriver. Et là, de pouvoir se dire chaque matin, je décide, je chante les bontés de l'Éternel et je chante sa fidélité. Je suis persuadé, et vous me donnerez vos témoignages, que ça change votre regard sur la journée, ça change mon regard sur la journée. Donc, une des premières antidotes au stress, c'est de se dire « je proclame ces bontés-là et je proclame cette fidélité ». Deuxième chose qu'il dit, « ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération ». Deuxième réalité qui engage, on chante les bontés de l'Éternel, et ma bouche, c'est-à-dire de nouveau, moi, avec mes mots, avec qui je suis, avec ma sensibilité, avec mon émotion, je transmets ce que j'ai sur le cœur à d'autres. Je ne le garde pas pour moi, c'est impossible. Je le transmets de génération en génération. Et puis là, je pense que ça nous fait aussi nous concentrer sur quelque chose d'autre. Ça élargit clairement l'horizon. Je ne suis plus concentré sur la transmission de mes problèmes, de mon stress, de mes préoccupations, de X choses sur mes enfants. Je transmets ce que Dieu fait dans sa fidélité et sa bonté dans ma vie. Ou en tout cas, j'essaye. Mais je me lance, puisque ma bouche fera connaître ta fidélité. En quoi Dieu a été fidèle dans ma vie ? En quoi le fait d'avoir un petit rendez-vous, peut-être chaque matin avec lui, un moment de communion, ça influence ma manière de penser et de voir la vie de tous les jours ? En quoi est-ce que ça donne, comme l'a dit Anne-Sophie, du sens à ma vie de savoir que j'ai une mission que Dieu m'a confiée ? C'est le deuxième point où Dieu peut se dire « il y a quelque chose à faire ». Et je pense que là aussi, ça nous donne cette paix que nul ne peut recevoir. J'arrive plus à bouger avec la zapette. Et troisième chose, le psalmiste et Ethan est reconnaissant de ce que Dieu fait dans sa vie. C'est-à-dire que le psalmiste ne se place pas au centre des choses. Il dit « Ta bonté est édifiée pour toujours et tu fondes ta fidélité dans le ciel. » Et ça, c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre, mais c'est que la fidélité de Dieu ne dépend pas de la qualité de ma prière, elle est déjà fondée ailleurs. Ce que moi je fais en tant que croyant, c'est d'être redevable à Dieu de ce qu'il fait pour moi. Et on a un peu une maladie actuelle, c'est que souvent, on a plutôt envie de demander des comptes à Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. C'est nous qui sommes au centre, et puis on dit, est-ce que Dieu il a été assez fidèle? Est-ce qu'il a été assez présent? Puis on lui donne des points un peu. On ne le fait pas de manière si caricaturale que ça. Mais on se met, nous, au centre, et puis on se dit, mais Dieu, là, il ne m'a pas répondu. Dieu, il a... Et le psalmiste fait exactement l'autre mouvement. Alors, je ne dis pas que ces questions ne sont pas légitimes, elles arrivent, et puis je pense que c'est bien si elles peuvent s'exprimer. Mais là, il renverse quand même fondamentalement les choses. Ta fidélité est dans le ciel, et moi, en tant que croyant et en tant qu'être humain, je te suis redevable, c'est-à-dire je te suis reconnaissant, et je te dois certaines choses parce que toi, tu es fidèle et tu m'offres cette ancre qui ne change pas. Et ça change la relation à Dieu, hein, ça. Ça la remet à l'endroit, j'ai envie de dire. Souvent, elle est à l'envers, mais là, ça la remet à l'endroit. Et je crois que ces trois éléments, si on peut essayer de les retenir, c'est mieux que le docteur Fogel, c'est de proclamer, c'est de transmettre et de se reconnaître qui est Dieu. Proclamer, transmettre, reconnaître. Je pense qu'on a là trois termes assez forts pour se dire, de génération en génération, on va faire grandir notre foi. Je vous ai mis quelques belles images du laveau pour dire aussi qu'à travers la création, on peut aussi, et puis on a cette émotion qui monte pour se dire, mais notre Dieu tient tout dans sa main. Et puis finalement, j'aimerais nous laisser un des défis qui était là pour nous au Kids Games, puis comme ça je boucle la boucle avec cette belle semaine que nous avons pu vivre, c'est qu'à chaque matinée, on avait un enseignement, on avait une manière de connaître Dieu, de savoir plus sur lui, de pouvoir expérimenter aussi certaines choses des réalités de la foi. Et à la fin, il y avait toujours un défi. Et puis moi, j'aimerais bien aussi terminer ce matin sur une note peut-être plus pratique, peut-être plus encourageante et surtout active. Finalement, je crois qu'il n'y a pas que les enfants qui sont appelés à relever des défis. Nous aussi, on peut être appelés à relever des défis. Et ma question, c'est quel est mon défi? Et je m'inclus dedans, évidemment. Quel est mon défi aujourd'hui au niveau des générations? Qu'est-ce que je peux faire dans mon cercle d'action, dans mon cercle d'influence pour apporter quelque chose au niveau des générations, que ce soit au niveau de la proclamation, de la transmission, de la reconnaissance de qui est Dieu. Et puis je vous donne quelques petites idées. Est-ce que j'organise par exemple un temps de prière pour la rentrée avec ma famille? Est-ce que j'écris ou je fais un petit Skype avec mon filleul de Catay ou mon filleul des Flambeaux, si vous êtes parrain, marraine? Est-ce que je décide ce matin de prendre à cœur une famille de la communauté et de prier pour elle, pour cette rentrée, pour les semaines et les mois qui viennent? Ça peut aussi se faire de manière silencieuse. Dieu, il l'entend aussi. Il n'y a pas besoin d'aller forcément vers les personnes. Ou alors, est-ce que dans ma famille, je donne à mes enfants un objectif relationnel ou solidaire, en plus des bons résultats en maths et en français? Est-ce que je lui dis, est-ce que, par exemple, comment tu as été avec les plus petits que toi? Comment tu as été avec celui qui n'est pas forcément le plus populaire de la classe? Est-ce que j'arrive à donner un objectif relationnel ou solidaire à l'un de mes enfants? Ou plus simple, est-ce que simplement je lui pose des questions pour savoir comment ça s'est passé avec les plus grands, avec les plus petits, avec les plus ou moins populaires de sa classe? Voilà quelques idées qui me sont venues pour se dire comment est-ce que l'on vit cette bonté, cette fidélité de Dieu, aussi de manière concrète, à travers ma famille, à travers les générations. Comment est-ce que ça peut fluidifier nos relations et comment ça peut passer d'une génération à l'autre? Et là, je crois qu'on pourra se dire, avec le psalmiste, heureux le peuple, parce que nous serons tous ensemble à marcher dans cette direction, qui s'est acclamé, car il marche à ta lumière éternelle, il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et tire gloire de ta justice. Car c'est toi qui fais sa beauté et sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. Alors que la faveur de l'Éternel relève notre force dans le défi qui sera le nôtre, relève notre force dans cette période d'incertitude, de stress, et nous donne cette beauté et cette puissance qui viennent de Dieu. Soyez toutes et tous bénis dans cette rentrée, encouragés dans ce que vous êtes en train de vivre, et puis que notre Père puisse vous donner cette force et cette faveur qui va faire la différence. Amen.